On commence chapitre 3, Mishnah 5, page 20. Ameviged be'eret Israël.
Ah, c'est nous.
Donc, une personne qui amène un guet, donc suite à ce qu'on a expliqué la semaine dernière, une personne qui amène un guet en Eret Israël. Ça veut dire qu'il amène d'une ville à l'autre en Israël. Par exemple, il amène de Tel Aviv à Jérusalem. Or, comme on avait expliqué dans le premier chapitre, quand on amène un guet d'une ville à l'autre en Eret Israël, on considère que les Beth Din se font confiance, donc on n'a pas besoin d'enquêter davantage sur la véracité de ce guet. Vechala. Et le problème, c'est quoi? C'est que Vechala, l'émissaire qui a amené le guet d'une ville à l'autre, il est tombé malade. Il est tombé malade avant d'arriver à l'endroit où la femme habite. D'accord? Par exemple, il amène quelqu'un qui amène un guet de Jérusalem à Tel Aviv. Donc, le mari fait passer le guet par quelqu'un, par un émissaire, et l'émissaire il tombe malade en chemin. D'accord? Donc, arrêté, l'émissaire, mais Shalcho Beyad Acher. Il peut lui-même donner ce guet à un autre émissaire. Ça veut dire que si lui il est malade, on ne dit pas, bah si tu étais malade, bah tant pis, c'est fini. On est obligé d'avoir l'émissaire initial. Même si on passe par un autre émissaire, c'est pas grave. D'accord? Alors, justement, ce qu'on dit comme ça, le concept il est comme ça. Normalement, si le mari a envoyé un shliach, un émissaire, ça dit, je veux que c'est toi qui amènes le guet, personne d'autre. Et s'il n'y a pas de cas de force majeure, par exemple, il ne tombe pas malade, etc., il n'a pas le droit de donner la mission à quelqu'un d'autre. À moins qu'il aille demander au mari, est-ce que tu es d'accord que je donne à quelqu'un d'autre de faire la mission? Mais sinon, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on considère que ça casse sa mission. Moi, je t'ai donné une mission, j'aurais pu envoyer l'autre directement, c'est à toi que j'ai demandé. Mais, dans un cas de force majeure, qu'il est tombé malade, on considère que celui qui l'a envoyé aurait été intéressé que cet émissaire-là se préoccupe de transmettre à un autre émissaire. Donc c'est pour ça qu'on accepte le fait que Arézé Meshal Chobi Adacher qui peut le faire passer par une autre personne. Donc bien entendu, comme j'ai expliqué, s'il n'est pas tombé malade, s'il n'y a pas de cas de force majeure, il ne peut pas le transmettre à un autre émissaire. On est obligé de repasser voir le mari pour lui demander est-ce qu'il accepte de donner à un autre émissaire. D'accord? Vous suivez ensemble là? D'accord. Ve'im Amarlo Tolli Hemena Chafetz Pluni. Si maintenant le mari avait dit au Shaliach, donc si le mari a dit à l'émissaire, Tolli Hemena Chafetz Pluni, ça veut dire prends-lui de ma femme, Chafetz Pluni, tel objet quand tu lui donneras le guet. Par exemple, d'accord, imaginez-vous que la femme, elle a, je sais pas, la femme, un diamant, voilà, qui appartient au mari, et que le mari, quand il envoie l'émissaire, il dit écoute-moi bien, n'oublie pas, avant de lui donner le guet, il faut qu'elle te donne ce diamant-là. Il lui appartient pas, il m'appartient. Bon. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il a envoyé un émissaire particulier, et il avait une raison pourquoi il a envoyé cet émissaire particulier, parce qu'il s'est dit, lui, il sera à même de garder le diamant, c'est quelqu'un de fort, etc. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Dans ce cas-là, lo yeshalchenu biyad acher. Dans ce cas-là, il ne peut pas, si cet émissaire va tomber malade, il ne peut pas lui-même envoyer un autre émissaire. Pourquoi? She'en retsono she'yepigdno biyad acher. Parce que Mishnah explique que quand un homme a missionné, faire confiance à quelqu'un pour faire passer un guet, on peut faire confiance à beaucoup de monde. Mais faire confiance à quelqu'un pour garder un objet, surtout si c'est un diamant ou je sais pas ce que c'est, d'accord? On fait pas confiance à tout le monde. Et c'est pas que je fais pas confiance, mais pas tout le monde est responsable.
Ouais, bien sûr. L'objet, c'est d'accord? Une condition?
Oui.
Ah d'accord. Et on voit pas ici que l'objet, c'est
une condition. Ah oui, il lui dit c'est une condition. Il lui dit, je veux que tu me prennes.
Je donne ça.
Oui. D'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le yishachenu biyadacher, sh'en retsono, sh'yepikdeno biyadacher. Parce que il ne veut pas faire passer ce gage, si on peut dire, biyadacher dans la main de quelqu'un d'autre, dans la main d'un autre shliach. Donc qu'est-ce qu'on a pris dans notre Mishnah? On a pris un principe, d'accord? On a pris un principe de notre Mishnah. Pas tous les jours, ça. On a pris un principe que de manière générale. D'accord? Donc, on va essayer d'apprendre un principe de manière générale, même si c'est pas pour un guet. D'accord? Si je donne quelque chose à quelqu'un, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu vas aller à Lyon? Est-ce que tu peux amener ça à mon ami qui est à Lyon? Je lui demande d'amener quelque chose, d'amener un objet. On considère que tant que l'émissaire n'est pas tombé malade, il n'a pas le droit de donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'a pas demandé à un autre, on a demandé à toi. Et si tu veux plus le faire, bah, tu le ramènes. Tu le ramènes au propriétaire, à celui qui t'a donné. Mais s'il est tombé malade, on considère que de manière générale, celui qui l'a envoyé est content, d'accord, est content et accepte le fait que comme c'est un cas de force majeure, on va transférer cette mission-là à un autre émissaire. D'accord ? Mais ce principe ne s'appliquera pas dans le cas dans lequel c'est un cas où il y a une forte responsabilité. D'accord ? Donc là, on a parlé d'un cas de Piquet-Donne, où il y avait un gage à reprendre, mais on peut appliquer ça nous aussi dans un cas dans lequel il y a une forte responsabilité. Par exemple, je vais demander à quelqu'un, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, à ma place, à la banque, aller me chercher de l'argent ? Je donne ma carte de crédit et tout. Lui, entre-temps, il est bloqué, il a un cas de force majeure. Et il donne la carte à quelqu'un d'autre, il dit, voilà, il m'a donné le code, tu fais le code et tu prends l'argent et tu lui amènes. Ça marche pas. D'accord ? Trois, ça marche pas, parce que quand c'est un cas dans lequel il y a une forte responsabilité, on considère que si c'est pas l'émissaire initial, qui veut le faire, il est obligé de lâcher la mission et de ramener l'objet au propriétaire initial. D'accord ? Donc, c'est un cas qu'on peut apprendre dans la vie de tous les jours. Deuxième cas. Ameziget Mizinat Hayam Vechala. Une personne qui amène un get Mizinat Hayam. Donc ça veut dire d'un pays d'outre-mer. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui change? C'est qu'on n'a plus le principe de confiance entre les Beddin qu'on avait avant. Avant, dans la Mishnah d'avant, on a dit que en Eretz Israël même, le seul problème qu'on a, c'est est-ce que le mari est content que tel shler va amener ou tel shler va amener. C'est-à-dire c'est l'émissaire qui va changer. Mais de toutes les façons, par rapport à la véracité du contrat, ça ne change rien. On considère que les Beddin en Israël se font confiance. Mais, si maintenant quelqu'un amène un guet, donc il envoie un émissaire, mais on est Midina Tayam, c'est-à-dire qu'il amène un guet d'un autre pays, de Beddin qui ne se font pas forcément confiance, parce qu'on ne sait pas exactement est-ce que le Beddin de l'autre pays, il connaît la lachot comme il faut, comme on a expliqué dans le premier chapitre. Vechala. Donc imaginez-vous que moi je suis le shliach, d'accord, pour amener un guet à quelqu'un à New York. Et entre-temps, tu préserves, la personne qui amène tombe malade. Il est tombé malade. O c'est Beddin, ou Meshalcho. Là, dans ce cas-là, écoutez bien ce qui va se passer. Il faut que ce soit un Beddin qui nomme un nouveau shliach. C'est-à-dire, c'est pas moi, je prends quelqu'un de la rue, je dis, écoute, je suis malade, est-ce que tu peux, s'il te plaît, amener ce guet à ma place, à la personne? Non. On doit faire ça par un Beddin. Si, par exemple, pour aller de Paris à New York, tu vas passer par une autre ville, eh ben, dans cette ville-là, tu t'arrêtes et tu prends le Beddin du quartier et tu leur demandes que eux nomment un autre shliach à la place. Veomer Lifnem, et il doit dire devant ce Beddin, Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam. Le guet a été écrit devant moi, le guet a été signé devant moi. Parce que le problème qu'on a ici est le suivant. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué dans le premier chapitre. Quand on amène un guet d'outre-mer, c'est-à-dire d'un pays que le Beddin du pays qui va recevoir ne connaît pas l'autre Beddin, on a expliqué que dans ce cas-là, le shliar, celui qui amène le guet, l'émissaire qui amène le guet, il doit témoigner que le guet a été écrit devant lui et qu'il a été signé devant lui. Or là, s'il tombe malade et qu'il doit s'arrêter en cours de route, il pourra pas le faire. Vous suivez? Imaginez-vous que moi je suis shliach pour amener le guet à quelqu'un, d'accord? Je suis de Paris, je vais à New York. Et en chemin, Dieu préserve, je tombe malade. D'accord? Bon. Le problème c'est que quand j'arrive à New York, je suis obligé de témoigner, c'est moi qui aurais dû témoigner que le guet a été écrit devant moi et signé devant moi. Ça fait partie, d'accord? Ça fait partie des vérifications et des enquêtes que le Beddin de New York fera pour s'assurer que le guet qui vient de Paris est un bon guet. Or, si je tombe malade, d'accord? Dieu préserve. Et que je m'arrête en cours de route, je ne pourrai pas témoigner. Donc, si c'est en Israël, on n'a pas ce problème-là, parce qu'en Israël, j'ai pas besoin de témoigner. Le fait même qu'on a un contrat, puisque les Beddin se font confiance entre l'un et l'autre, donc on va pas chercher plus loin. Mais là, on avait expliqué dans le premier chapitre que je dois témoigner. Ça, alors comment je fais? Qu'est-ce que vous dites? Comment on fait?
Je dis que c'est le tribunal qui m'envoie.
Je fais mon témoignage au tribunal.
Voilà. Voilà. D'accord? Je fais exactement ce qu'on a rappelé aujourd'hui, une procuration. Ça veut dire que, en cours de route, je m'arrête dans une ville dans laquelle il y a un Beddin et je transmets mon témoignage au Beddin, d'accord, qui lui nommera un autre shliach en lui disant quand tu arriveras là-bas, tu pourras dire que le guet a été écrit et signé devant le shliach initial. Et nous, on te cautionne pour ça, donc il y a une procuration. Donc c'est valable. D'accord? Ça, c'est ce que nous avons dans notre Mishnah. Dans les mots, Ose Beddin ou Meshalecho. Il fait un Beddin, d'accord, donc à l'endroit où il doit s'arrêter, il fait un Beddin. Et ce Beddin-là, on verra un autre shliach. Donc, il y a une procuration. Vomer Lipnem, Vefanaï Nirtav ou Vefanaï Nirtam. Donc, le premier émissaire dira devant le Beddin, le guet a été écrit devant moi, et le guet a été signé devant moi. Ve'en, Ashliach Acharon, Sayer Shema, Fanaï Nirtav, Fanaï Nirtam. Le dernier émissaire, ça veut dire celui qui va amener le guet, il n'a pas besoin, et d'ailleurs, il ne peut pas dire que le guet a été écrit et signé devant moi. Et là, Omer, seulement il dit, Shliach Beddin Ani. Il dit, je suis l'émissaire du Beddin. Donc, j'ai une procuration du Beddin. Et donc là, automatiquement, puisqu'on sait qu'il y a une procuration du Beddin, qui lui, le Beddin, témoigne qu'il y a quelqu'un qui est venu chez eux et qui leur a dit que le guet a été écrit et signé devant eux, c'est bon, ça nous suffit. D'accord, vous me suivez? Donc, dans ce cas-là, la solution qu'on a eue, c'est de faire une procuration. Mais la procuration ne peut se faire que dans un bed-in. Je sais pas comment ça se passe en droit français. Faire une procuration, il faut... On le fait ça que dans un tribunal?
Papier libre.
Ah, papier libre, d'accord.
Signature.
Mais si c'est un cas, si c'est une grosse transaction.
Alors, pour l'acquisition.
Voilà, pour l'acquisition. Voilà. Donc voilà, notaire. Donc notaire, on peut considérer que c'est un bed-in, hein. C'est une force de bed-in, ouais. Un notaire. Un notaire, il est...
Il est notaire véreux.
Non, mais un notaire, il a assermenté, je crois, il fait force de loi, un notaire, non?
Oui, parce qu'il a assermenté. Ouais, il y a eu des
choses. Ah, oui. Je crois que c'est un officier... Enfin, ouais, c'est plus que quelqu'un d'assermenté.
Il est fonctionnaire. Il représente l'État.
Voilà. Donc c'est clair. Donc c'est un bed-in. Pour nous, c'est un bed-in. Ensuite, on continue. D'accord? Alors, notre Mishnah matin, la Mishnah suivante, la Mishnah numéro 7, va revenir au sujet qu'on avait parlé la semaine dernière, qui était très intéressant. Le sujet dans lequel on dit que, dans quel cas on considère qu'une personne garde la présomption d'être vivant. Vous vous rappelez? On avait parlé de ça jeudi. On avait dit que de manière générale, quand par exemple, vous vous rappelez le cas qu'on avait dit, on avait dit que quand un mari envoie une personne dans un autre pays pour donner un guet à sa femme, le problème qu'on a, c'est qu'un homme qui est mort ne peut pas divorcer. Donc on s'est dit, peut-être qu'entre temps, le temps que l'émissaire a fait la route, peut-être que la personne, entre temps, elle est morte. D'accord? Peut-être que le mari est mort, dans ce cas-là, il ne peut plus divorcer. Donc on veut savoir, est-ce que la femme aura un statut de divorcée, ou est-ce que la femme aura un statut de veuve? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tant que le shliach qui a reçu le guet, il a reçu le guet d'un homme qui est vivant, nous on considère que celui qui a donné est toujours vivant. Becheskat chez Ukayam. Il y a la présomption qu'il est toujours vivant. On avait expliqué qu'il y a des cas dans lesquels, cette présomption saute. Par exemple, si on sait par exemple qu'on a vu le mari se perdre dans un bateau. On a vu par exemple que le bateau dans lequel le mari était, on a vu que le bateau est en train de se perdre dans la mer. On sait. On a vu de loin, d'accord? Il y a un autre bateau qui était à côté, qui a essayé de sauver.
Dans le vol,
d'accord,
de 149.
Voilà, il était dans le vol Air France 249. On sait que malheureusement, il y a eu une réouta, ce qu'on appelle dans la Gemara. Ça veut dire que la présomption a été brisée. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On avait expliqué dans la Mishnah. La femme de cette personne-là doit garder toutes les chumrot comme si son mari était vivant, et toutes les chumrot comme si son mari était mort. Donc, par exemple, elle arrête de manger la tourma comme si son mari était mort, et elle ne peut pas se remarier comme si son mari est vivant. Mais on a expliqué que les bedin, il y a des bedin qui sont formés pour ça, pour essayer de trouver un maximum de raisons pour déterminer que le mari est bien mort. Parce que, d'ailleurs, le bedin a fait, comme on a expliqué, dans le cas du vol 247, 249, 247, je ne sais plus quel numéro c'était.
Le dernier, là.
Le dernier. Bah, la femme, ils ont pu faire les shiva. C'est-à-dire que la femme pourra se remarier. Il faut attendre 3 mois, quand même. Il faut attendre au minimum trois mois, puisque...
Ceux qui n'ont pas pris l'avion, là, les rescapés, il paraît qu'ils ont fait un accident.
Ouais, il y a une femme en Angleterre qui n'a pas pris l'avion. Elle a raté l'avion.
Elle l'a vu dans le journal et tout.
Et deux semaines plus tard, enfin, même pas, 10 jours plus tard, elle a fait un accident de voiture, elle est morte.
Ouais. On l'a vu dans le journal, comme quoi, elle n'a pas pris l'avion, elle a été sauvée.
Un jour après, elle a fait un accident de voiture. Vous voyez qu'elle faisait partie de la liste. Elle date des médailles.
Et Dieu, certainement que Dieu voulait lui faire comprendre qu'elle avait autre chose à faire. Elle avait encore une mission à faire dans le monde avant de partir. Et... Ouais. Donc, à Meviget, une Zina Tayam. Oui, donc comme j'ai dit, elle doit attendre 3 mois pour se remarier. Pourquoi elle doit attendre 3 mois pour se remarier? Parce que si elle venait de tomber enceinte, d'accord, de son mari, le problème c'est que si elle va se remarier, le bébé qui va naître, s'il y aura un bébé qui va naître 9 mois plus tard, on ne saura pas est-ce que c'est un bébé qui est né, donc même si un bébé qui naît par exemple 7 mois plus tard, on ne saura pas est-ce que c'est un bébé qui vient du premier mari, d'accord, donc qui est né, ou est-ce que c'est un bébé qui vient du deuxième mari, ou c'est un bébé qui vient du deuxième mari. Parce que jusqu'à 3 mois, on considère qu'un bébé peut naître entre 6 et 9 mois. C'est pour ça qu'on attend 3 mois. Comme ça, on attend 3 mois. Comme ça, dans ce cas-là, on sera persuadé que quand il y aura le bébé qui va naître, s'il y a un bébé qui va naître, il ne peut venir que du deuxième mari. Voilà, donc c'est technique. Hein.
Il n'y a pas un an de deuil, non?
Non.
Qui perd son mari.
Non.
Au
contraire, non. Elle peut se marier même... Normalement, alarchiquement, elle peut se marier même un mois plus tard. Si c'est une femme qui ne risque plus d'avoir de bébé, par exemple, elle a déjà... On appelle ça ménoposée. Elle peut même se marier même un mois plus tard. Sachez en passant que pour la veuve, le deuil ne dure que un mois, pas un an. pour la veuve.
Pour
la... Oui. Le deuil ne dure qu'un mois, justement pour l'encourager à se remarier le plus rapidement possible.
Pour le frère, aussi. Et le veuf, combien ça dure?
Il remarier tout de suite le mari, je crois.
Ah oui, le mari, oui. Le mari peut se remarier après les chiffres. Oui, bah oui, parce qu'il faut pas. Eh oui. Il faut pas rester veuf. Il faut se remarier.
Après 7 jours, il remet ça.
Amalvé Maot et Takohen. Alors, donc on continue dans notre Mishnah, Mishnah numéro 7. Amalvé Maot et Takohen, Vetalevi, Vetan. Une personne qui prête de l'argent. D'accord? Donc une personne qui. On est ici. Voilà. Amalvé Maot, donc une personne qui prête de l'argent, est à Kohen, au Kohen, Vet à Lévi ou bien à Lévi. On verra tout de suite pourquoi on est dans ce cas-là. Vet et Ani ou bien à un pauvre. Liot ma friche à Léhen, Mechelkan. D'accord? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui a du maaser à donner, au Kohen. Alors il va lui prêter de l'argent. Mais il va lui dire, écoute, je te prête de l'argent, je te prête 1000 euros, mais tu me rendras pas 1000. Tu me rendras 800. Et les 200, tu les gardes en tant que maaser, que j'aurais dû donner. D'accord? Bon. C'est pas mal. D'accord? Kamalvé Maot et Takohen, Vetel.
20%.
Hein? Retenu à la source. Prélevé à la source, oui. Donc, Amalvé, je remets dans les mots. Amalvé Maot et Takohen, Vetalevi, Vetahani. Une personne qui prête de l'argent à un Kohen ou à un Lévi ou à un pauvre. Donc, trois personnes à qui on est tenu de donner un maaser. Donc, il y a des années, on devait donner le maaser au pauvre, des années, on devait donner le maaser au Lévi, au Kohen, etc. D'accord? C'est-à-dire, c'est trois personnes qui sont aptes à recevoir le maaser. Et, Liot Mafrich Alen Mechelkan, il lui dit qu'une partie de cette dette que tu me dois, tu la prendras en tant que maaser. D'accord? Très bien. Alors,
C'est un rébit, ça.
Pourquoi c'est un rébit?
Bah parce qu'il te fait grâce du maaser.
Ben non. Au contraire. Imaginez-vous, monsieur Denis, que vous êtes Cohen. D'accord? Et moi, je vous prête de l'argent. Je vous fais une fleur, je vous dis, écoute, je te prête 1000 euros, et tu me rends que 800. Ah oui, pourquoi je rends que 800? Les 200. Il y a en moi, tu les gardes pour toi en tant que maaser. C'est génial. C'est un preneur? Si, on est preneur. Donc, ma friche aléen, becheskat shem kayamin, ve'eino, d'accord? Donc, ve'eino, choshesh, shema met a kohen, o alevi, o eeshir, e ani. D'accord? Donc, on nous dit comme ça. On dit que, deux secondes dans les mots.
Il qu'au prêt, au Kohen, il lui doit la terouma.
Ouais, ouais, attendez,
tandis qu'au.
Je crois que j'ai fait une erreur.
Au Lévite et au pauvre, il leur doit que la dîme.
Oui, oui. Le Kohen, seconde. Le chef Richetron, tu vois tout, je vais au Kohen. Le Kohen, Kohen. Kohen, la minute, chef Richetron, tu vois tout, je vais au Kohen. Oui, c'est ça. C'est ok, oui. Oui, c'est ça. C'est bien ce que j'ai compris. D'accord. Alors, en fait, d'accord. Oui. Donc on dit comme ça, Mafri Shalen Becheskat Shem Kayamin, ve eno choshesh shema meta Kohen o alevi o eshir ani. Le problème qu'on a, c'est que ce maaser là, on peut le donner au Kohen que si le Kohen est vivant, ou que si le Lévi est vivant, d'accord? Et que si le pauvre est toujours pauvre. Si le pauvre s'est enrichi entre temps, on ne peut plus lui donner le maaser. Alors le problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'ici, apparemment, il y a une condition que j'ai faite. J'ai fait une condition quand j'ai prêté de l'argent à quelqu'un. J'ai fait une condition et je lui ai dit qu'une partie de cet argent, d'accord, je le considère en tant que maaser. Bon. Le problème, c'est quoi? C'est que peut-être entre-temps, le temps que cette personne-là a utilisé ce maaser-là, peut-être qu'entre-temps, cette personne-là est morte. Le Kohen est mort. Ou bien le Lévi est mort. Ou bien le Lévis, ou bien le riche, le pauvre s'est enrichi. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce cas-là? Donc, en fait, c'est le principe qu'on a déjà donné dans la Mishnah la semaine dernière. On a donné un principe que quand on fait une transaction avec quelqu'un qui est vivant, on considère que la transaction se finira en tant que vivant. On ne va pas dire peut-être qu'entre-temps il est mort. C'est ça ce que veut nous apprendre cette Mishnah. Mais tout, Tsarich Litol Reshut Menayorshin. Si maintenant, entre-temps, ils sont morts, donc la Gemara explique que là, ici, ce qui peut se passer ici, c'est que peut-être que moi, quand j'ai donné l'argent à un Kohen, je lui ai dit... Si tu veux récupérer, c'est ça, enfin, c'est un cas un peu complexe.
Oui, mais il y a une date aussi.
Justement, non, écoutez bien.
Quand tu me rendras l'argent, tu prendras ton maaser.
Non, justement, il y a encore autre chose. Écoutez bien. Moi, je prête 1000 euros à quelqu'un. Regardez bien ce que dit Agmara. Je prête 1000 euros à quelqu'un, à un Kohen. Et je lui dis, il y a 200 euros. Il y a 200 euros de ces 1000 euros qui sont maaser. Donc, s'ils sont maaser, en autre temps, tu ne fais pas ce que tu veux. Alors si tu veux les utiliser, tu les vends à un autre Cohen. C'est bien ce que je suis en train de dire.
Que tu vends,
tu vends ces 200 euros là, donc ces 200 euros de récolte, tu les vends à un autre Cohen. Je donne à M. Daniel qui est Cohen. Je lui donne 1000 euros. En espèce ou en récolte, en nature. Je lui dis, dans ces 1000 euros de récolte, il y a 200 euros qui doivent aller en maaser. Maintenant, M. Daniel, il dit, écoute, moi, je ne t'ai pas emprunté du maaser. Moi, je veux 1000 euros en espèce, que je fais ce que je veux avec. Il dit, écoute, voilà ce que tu fais. 200 euros de cette récolte-là, tu vas prendre notre Cohen.
Ça, c'est dans le cas où
et donc,
de la
toi,
récolte.
Tu récupères, et donc, toi, tu vas récupérer avec celle les 200 euros, tu les vends à notre Cohen. Écoutez bien ce que je suis en train de dire.
On leur donnait le maaser.
Ah non, justement, tu vas les vendre à notre Cohen. Donc, tu vas les vendre, justement, écoutez bien ce que je suis en train de dire, tu vas les vendre, ça veut dire que tu vas vendre au Cohen, par exemple, tu vas dire, voilà, moi, j'aurais pu garder ce maaser-là dans 2 mois, parce que je suis Cohen. Moi, je te donne le droit de t'en servir tout de suite, donc au lieu de le vendre 200, je le vends 50. Tu veux?
Il y a Anguille sous roche.
Non! Il peut le faire parce
entre
que c'est un Cohen. C'est un Cohen.
Entre Cohen.
Et alors, il se vend au maaser.
Parce que c'est un maaser physique, c'est pas de l'argent. C'est un produit à manger.
Non, mais il
pas d'argent, le Cohen.
Donc, je répète.
Il m'a prêté 1000 euros.
D'accord. Monsieur Cohen. Monsieur Daniel, qui est Cohen, vient me voir et il me dit, j'ai besoin de 1000 euros.
1000 euros.
D'accord.
1000 euros de récolte.
Moi, qu'est-ce que je lui donne? Je vais lui donner 1200 euros.
C'est différent.
D'accord. Par exemple, je lui donne 1200 euros. Je lui dis, voilà, je donne 1200 euros, mais attention, il y a 250 euros qui est maaser ici.
Ah, tu viens t'augmenter.
D'accord. Non, mais c'est le principe. Après, j'ai augmenté pour qu'on comprend mieux, mais c'est le principe. D'accord. Donc, il y a 200 euros ici, il y a 250 euros ici qui sont maaser. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le vendre à quelqu'un, à un autre Cohen. Tu es Cohen, tu peux le faire. Tu vas le vendre à un autre Cohen et tu lui dis, voilà, je lui donne la récolte, je lui donne 250 euros de récolte et tu me donnes 50 euros.
Parce qu'il te manque 50.
D'accord. Il me manque 50. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ici que, donc bien entendu, on a...
Tu rembourseras, mais...
Non, tu rembourseras que 950. On est bien d'accord.
Donc, il y en a un qui a eu 200 et l'autre qui a eu 50.
Voilà. Tu rembourseras 950.
Il a vendu une obligation.
Si tu veux. D'accord. Il a fait une tova au Cohen. Il a été gentil avec le Cohen. Le Cohen, il a dit, écoute, j'ai que 950, mais si tu veux... Bon, j'ai une petite somme, là, mais ça peut être une grosse somme. Donc... mais tout, ça écrit l'étal rechute de Neyorchine, imil van ufnebedin, et notre ça écrit l'étal rechute de Neyorchine. Très bien. Si maintenant, entre temps, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on considère que, donc tout le monde est vivant, donc il n'y a pas de problème. Si entre temps, le Cohen et le Lévi sont morts. Alors, il y a un autre cas aussi qui peut arriver. Écoutez bien. Ça, c'est encore un autre cas. C'est un cas encore plus compliqué. Imaginez-vous que Monsieur Daniel n'est pas Cohen. Il n'est pas Cohen. C'est bien le cas.
Ma grand-mère,
d'accord.
Pauvre.
Voilà, je conclue avec ce cas. Imaginez-vous que M. Daniel n'est pas Cohen. Il n'est pas Cohen.
Il n'est pas Lévi.
D'accord. Il n'est pas Lévi, il n'est pas pauvre, au Hachem, il n'a rien. Mais il vient m'emprunter de l'argent. D'accord. Il vient m'emprunter de l'argent.
Bah, amen, il a dit rien.
Alors, écoutez bien, regardez bien ce qu'il va faire. Là, c'est une vraie magouille.
Là, il n'y a que le cas du pauvre. Hein.
Ouais. Mais tout
il y a Cohen, Lévi, ou un pauvre.
Pauvre, c'est amen, hein.
Alors,
il est pauvre.
Ou bien ils sont morts, ou bien il a enrichi. Regardez bien. Si maintenant, le cas qui se passe, c'est comme ça. Moi, je prête de l'argent à M. Daniel, qui n'est pas Cohen. D'accord. Maintenant, M. Daniel a besoin de 1000 euros. Donc, moi, je lui dis, écoute, moi, j'ai 950 euros. Mais j'ai 250 euros de maaser. Ce que je te propose, tu prends... Donc, moi, je te donne 1250. Je te donne 1200, pardon. Ce que je te propose, c'est que toi, tu vas aller voir un Cohen, d'accord? Et tu vas lui dire, écoutez, monsieur Cohen, d'accord? Ce maaser-là, je peux donner au Cohen que je veux. Est-ce que vous voulez être le Cohen élu à qui je vais donner le maaser? Il va dire oui, alors donnez-moi 50 euros. Vous suivez? C'est ce qu'on appelle une tovat ana. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que je vais négocier un Cohen, je vais lui dire, j'aurais pu donner ce maaser à un autre Cohen. Puis si tu veux que je le donne à toi, donne-moi 50 euros.
Ça se fait ça?
Bien sûr ça se fait.
Proposer ça avec un pauvre?
Ça se fait. Non seulement que ça se fait.
Tout à l'heure il a dit amen, il a dit amen.
Amen.
Ça veut dire qu'en fait,
non seulement que ça se fait.
Il n'y a pas la somme totale,
d'accord? Oui. Si, il y a la somme totale. Ah oui. Parce que moi je donne 250 euros.
Non, pour celui qui donne, pour le départ.
Oui.
Mais... Ah oui, d'accord.
Ah oui.
D'accord.
Moi je lui donne 250 et il me rend 50.
Ça marche que d'un pauvre à un pauvre ou un inconnu.
J'ai pas fini, regardez bien. Regardez bien comment
en vérité. Négocier là avec le Cohen là, t'es en train de lui piquer.
Regardez bien comment en vérité on le fait tous.
Il lui pique de son...
Regardez bien comment en vérité on le fait tous. Je donne un exemple. On a tous du maaser à donner. D'accord? tous du maaser à donner. Mais on a le droit de choisir à qui on donne notre maaser, à quelle synagogue on le donne. Mais quand tu vas donner ton maaser à une synagogue, obligatoirement, automatiquement, les gens de cette synagogue, puisque tu as donné de l'argent, donc ils vont être plus gentils avec toi que d'habitude. Donc tu auras un certain plaisir de ça. Tu veux ou pas? On a un certain plaisir de ça. Ce plaisir-là, ça s'appelle une tovatana, ça s'appelle un profit. Donc ce plaisir-là peut être en sourire, d'accord? Mais ce plaisir-là peut être aussi en cadeau, par exemple. Que par exemple, la synagogue à qui j'ai donné des gros dons, ils vont m'offrir un cadeau. Donc j'ai gagné quelque chose, bien que c'était mon maaser. C'est ce qu'on appelle une tovatana.
Il faut savoir utiliser son argent aussi.
D'accord. Donc...
ça fait partie de la bonne utilisation.
Dans ce cas, M. Daniel, moi je donne à M. Daniel 1200 euros. Et je lui dis, il y a 250 euros de maaser. Ces 250 euros de maaser, tu les donnes à un Cohen, mais tu négocies 50. Est-ce que c'est permis ou pas?
Ouais, mais là, moi je dirais que c'est pas permis parce que là, il a négocié du...
Oui,
tu négocies un sourire, pourquoi pas?
Négocier un sourire, un cadeau, tu négocies ce que tu veux.
Du cadeau, bon. Mais là, tu négocies carrément.
On a le droit.
Ton pognon à la Ligue du Cancer, il t'envoie.
Alors, sachez qu'à un certain moment, les Khamim ont dû faire une takana parce qu'il y avait des Kohanim qui allaient voir les agriculteurs. Qui allait voir les agriculteurs et qui leur disait, écoutez, vous avez du maaser à donner, donnez-nous 10%, nous on vous rend
3%. Ouais, d'accord.
C'est légal.
Attends, je vais te dire, ça se passe avec les impôts.
Et à un certain moment, les rachamim ont dû faire une takana sur ça. Ils ont dû interdire ce genre de pratique, d'accord, parce que ça devenait du business.
Le maaser qu'on donne, il est des impôts.
Non, en plus, ça travestit le...
Le concept même du maaser. Mais c'est légal. Parce que c'est légal. Le Cohen, il reçoit 10% et il reverse 3%. Il reverse 4%, il reverse 5%.
Ça se passe comme ça actuellement. Envoyez-nous vos dons, c'est voilà. Du type de vos impôts, ils te disent.
Alors après...
C'est pas mal aussi, ça c'est vrai qu'il y a un problème là-dedans.
Oui.
Un problème, c'est vrai. Il faut le savoir.
C'est pour être sûr que...
Les 100 euros que tu donnes, finalement, tu les récupères sur ta feuille d'impôt.
Oui, mais bon, t'as pas... Qu'est-ce qu'il fait? Ah.
D'accord. Il a compris, lui.
Pas justement, si...
Derrière vous, il y a une kippa, derrière vous, là, la rose, là.
Donc, j'espère que vous n'avez pas oublié qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de l'ISF, hein.
Voilà.
Ah.
Donc en tout cas c'est légal. C'est
très belle.
D'accord. En tout cas c'est légal. Donc si maintenant. D'accord. Si maintenant je donne, là, donc je répète mon cas, je donne l'argent à Monsieur Daniel. Je vais pousser encore plus loin. Je donne de l'argent à M. Daniel, d'accord. Donc je lui donne 1200 euros, mais je lui dis 250 euros de ce maaser-là, tu vas les donner à ce Cohen.
Ah, ce Cohen là-bas.
Ce Cohen, et il te donnera 50 euros. Je me suis arrangé avec lui.
Mais lui, il paye qu'en dollars.
D'accord. Bon, alors, je ne vais pas dire ce Cohen, parce que là, on va parler d'un cas du préserve où il va partir de ce monde. Donc c'est pas un autre Cohen. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit? On considère qu'il est vivant. On considère qu'il est vivant, donc M. Daniel va considérer que ce Cohen-là est vivant. Si maintenant on apprend que ce Cohen-là, Dieu préserve, est décédé, il faudra demander la permission aux héritiers. D'accord ? Il faudra demander la permission aux héritiers de leur dire, écoutez, votre père, bon, on a fait un deal, que bon, on va donner 250, mais il va rendre 50. Vous êtes toujours d'accord de recevoir 250 pour récupérer 50 ? Il faut demander la permission aux héritiers. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on nous dit ici pour le... Bien sûr, c'est ce cas-là. Hein ?
Tout ça, ce sont des accords verbaux.
Tout ça, c'est verbal. Mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y avait quand même une certaine forme de business dans le maaser. Et comme je vous dis, les Chachamim, à un certain moment, ont été obligés de faire une takana. Parce que ça devenait... Parce que, cette année-là, il y a un Cohen qui vous propose 3%, mais l'année prochaine, il y en a qui dit, écoutez, moi, 2%. Donc moi, je garde 2%, je vous rends 8. Juste donnez-moi le maaser à moi.
C'est pas de leur faute, c'est juste.
Ça devenait du business. Donc ils ont dû bloquer ça. D'accord.
Le seul métier qui a été caché, c'était commerçant.